Je pense que vivre est une telle joie, et je me demande si je pourrais jamais plonger vers l'intérieur, jusqu'à la racine de cette chair, afin de connaître celui que je fus. Là est la racine. Qu'un de mes actes me la découvre, cela reste caché dans le futur. Mais toutes les choses que peut faire un homme sont miennes. Chacun de mes actes peut y parvenir. Le Gola parle. Commentaire d'Alia. Prisonnier de la transe de l'oracle, dérivant dans les profondeurs de l'Épis, Paul vit la lune se transformer en une sphère, se déformer, rouler, basculer, avec un sifflement terrible. Le sifflement d'une étoile plongeant dans l'océan. La lune tombait comme une balle claire lancée par un enfant. Disparue. Elle n'était plus là. Il le comprit soudain. Il n'y avait plus de lune. La terre frémit comme un animal en mue. La terreur vint. Paul se redressa sur sa couche, les yeux écarquillés. Une partie de son esprit regardait encore vers l'intérieur. Celle qui voyait la réalité reconnaissait la grille de plasmelte de sa chambre, savait qu'il reposait auprès d'un des abîmes de pierre de la citadelle. Au fond de lui, la lune continuait de tomber. Dehors, dehors. La grille dominait Arrakis, flamboyant dans la lumière de midi. Là où tombait la lune, régnait une nuit épaisse. Des gerbes de parfum montaient d'un jardin en terrasse. Mais il ne parvenait pas à repousser cette lune qui tombait toujours. Paul se leva. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et lisse. Il se pencha et regarda vers la cité sous le soleil, découvrant l'arche gracieuse d'une passerelle de platine et d'or, ocellée de joyaux venus de la lointaine Cédone. Plus loin, la cité commençait, auprès d'un bassin et d'une fontaine. Sur l'eau, il y avait des fleurs. En se penchant un peu plus, Paul le savait, il pourrait découvrir des corolles rouges comme le sang, flottant sur la nappe d'émeraude. Il essayait de s'accrocher à la réalité, mais il ne pouvait s'évader de l'emprise de l'épice. Cette lune anéantie, quelle terrible vision! La vision suggérait une perte monstrueuse de la sécurité individuelle. Peut-être avait-il entrevu la chute de sa civilisation. Peut-être était-ce par ses actes que cette lune avait été déséquilibrée. Une lune déchue. Il avait absorbé une dose massive d'essence d'épices pour pénétrer la nuée de vases soulevée par le tarot. Et il n'avait découvert que cette lune qui tombait, cette solution qu'il connaissait depuis le début, mettre un terme au djihad. Éteindre le volcan, le déchaînement de la boucherie, se désavouer, abdiquer. Les senteurs du jardin-terrasse lui rappelaient Shiny. Il eut soudain envie d'être entre ses bras, dans l'oubli de sa douceur. Mais Shiny elle-même ne pourrait faire disparaître la vision. Que dirait-elle s'il venait à elle maintenant avec en lui cette mort particulière? Sachant que la fin était inéluctable, pourquoi ne pas choisir une mort aristocratique? Pourquoi ne pas conclure l'existence par un grand geste secret qui disperserait toutes ces années qui auraient pu être? Choisir de mourir avant d'atteindre l'épuisement de sa volonté de puissance, n'était-ce pas aristocratique? Paul s'avança sur le balcon et leva les yeux vers les vrilles et les fleurs du jardin. Il avait la bouche sèche comme au terme d'une longue marche dans le désert. La lune qui tombait, où était-elle? Il songea à la description que lui avait faite Alia, cette jeune fille que l'on avait retrouvée dans les dunes. Une frémène droguée à la Semuta. Tout concordait, tout correspondait à l'affreux schéma entrevu. « On ne reçoit rien de cet univers, » songea-t-il. « Il nous accorde ce qu'il veut. » Sur une table basse, une conque des lointaines mers de la terre maternelle brillait doucement. Il la prit entre ses mains, essayant à son contact lisse de glisser en arrière dans le temps. D'innombrables lunes minuscules dansaient dans les reflets nacrés du coquillage. Il leva les yeux. Dans le ciel, des sillons de poussière aux couleurs de l'arc-en-ciel se croisaient sur le soleil d'argent. mes Fremen s'appellent entre eux les enfants de la lune, se dit-il. Il reposa le coquillage sur la table, s'avança au long du balcon. Cette lune de terreur repoussait-elle tout espoir de salut? En quête d'un sens possible, il s'enfonçait dans les régions de la communion mystique. Il se sentait faible, désemparé, encore englué dans les fils de l'épice. À l'angle nord de l'abîme de Plasmeld, il s'arrêta et contempla les constructions plus basses qui abritaient l'administration. Sur les terrasses, les passants étaient nombreux. Les silhouettes sombres ou claires composaient une frise mouvante sur le fond géométrique des portes et des murs, des terrasses et des tuiles. Des tuiles. Les êtres étaient comme autant de tuiles sur la cité. Il cligna des yeux et l'image demeura figée en lui. Une lune tombe et disparaît. Il avait le sentiment, brusquement, que toute cette cité, là devant lui, avait été traduite en un symbole étrange s'il représentait son univers. Toutes les demeures qu'il contemplait maintenant avaient été érigées sur la plaine où ses Fremen avaient autrefois anéanti les légions Sardaukar. Sur ce lieu de bataille régnait à présent la rumeur sourde du travail. Il gagna un point du balcon d'où il dominait les faubourgs qui se perdaient au loin entre les rochers et les écharpes de sable du désert. Le paysage était dominé par le temple d'Alia. Sur les 2000 mètres de ses murailles, la lune, symbole de Muad Dib, apparaissait sur les tentures vert et noir. Une lune qui tombe. Il porta la main à son front devant ses yeux. La cité symbole l'oppressait. Il méprisait ses propres pensées. Un tel flottement chez quelqu'un d'autre eût provoqué sa colère. Il abominait cette idée. La fureur qui se répandait en lui naissait de son ennui. Elle était nourrie des décisions qu'il ne pouvait éviter. Il savait sur quel sentier il lui fallait s'engager. Un sentier qu'il avait vu bien des fois. Mais l'avait-il vraiment vu? Il y avait eu un temps où il s'était considéré comme l'inventeur d'un système de gouvernement. Mais son invention, si elle avait jamais existé, avait rejoint les schémas anciens, comme si elle avait été quelque hideuse machinerie dotée d'une mémoire élastique. Il suffit d'un bref relâchement de la vigilance pour que les formes du passé reviennent. Des forces qui étaient à l'œuvre hors de sa portée, au cœur des êtres, le trompaient, le défiaient. Son regard courut sur les toits. Combien d'existences libres abritait-il? Entre les surfaces blanches ou dorées, il surprenait des bosquets verts, des arbres, des vergers. Vert. Le cadeau de Muad Dib, de l'eau de Muad Dib. Une cité de jardin pareille au légendaire Liban. Muad Dib gaspille l'eau comme un fou, disaient les Fremen. À nouveau, Paul porta la main à ses yeux. La lune tombait. Il baissa la main. Le regard qu'il posa sur la ville était comme clarifié. Il percevait maintenant comme l'aura d'une monstrueuse barbarie impériale. Sous le soleil septentrional, les bâtiments étaient énormes, des colosses. Devant lui se déployaient toutes les extravagances architecturales d'une histoire devenue folle. Des terrasses vastes comme des mésas, des cours aussi grandes qu'une ville, des parcs, des jardins où le désert était recréé. Ainsi, l'art, dans ce qu'il avait de superbe, pouvait déboucher sur des prodiges atroces de mauvais goût. Des détails lui apparaissaient maintenant, qu'il n'avait jamais remarqués avec autant de netteté. Une potence de Bagdad, un dôme venu de quelques damas de rêve, une arche qui provenait d'Attar, un monde à faible gravité, un élan gracieux et des profondeurs bizarres. L'ensemble était d'une magnificence sans rivale. Une lune, une lune, une lune. La frustration, la pression de l'inconscient des masses, de la ruée de l'humanité à travers l'univers, était comme un raz-de-marée menaçant de le submerger, de l'emporter. Il percevait les vastes migrations qui régissaient les choses humaines, courants, ruisseaux et flux de gènes que nul barrage d'abstinence, nulle impuissance, nulle malédiction ne pouvait interrompre. Dans cet immense mouvement, le djihad de Muad Dib n'était qu'un battement de cils. Pris dans ce mascaret, le Bene Gesserit, cette entité qui manipulait les gènes, était aussi prisonnier que lui du flot. Les visions de cette lune qui tombait devaient être mesurées à l'aune d'autres légendes, d'autres visions dans cet univers où les étoiles elles-mêmes, apparemment éternelles, déclinaient et mouraient. Quelle importance pouvait donc avoir une lune solitaire dans un tel univers? Loin, très loin dans la citadelle, si loin que le son, parfois, se fondait dans la rumeur de la cité, lui parvint la musique d'une rebaba à 10 cordes. C'était une chanson du djihad, un appel d'amour à une femme restée sur Arrakis. Ses hanches sont comme dunes creusées par le vent, et ses yeux comme le brasier de l'été. Les anneaux d'eau de ses tresses teintent et brillent dans son dos. Mes mains se souviennent de sa peau, de sa couleur d'ambre, de sa senteur. Les souvenirs sont dans mes yeux, et l'amour me revient comme un feu. Une chanson stupide destinée à ceux qui se perdaient dans le sentimentalisme. Peut-être à la fille dont Alia était allée examiner le corps, là-bas dans les dunes. Une silhouette se déplaça dans l'ombre de la grille. Paul se retourna brusquement. Le Gola apparut en pleine lumière. Ses yeux de métal scintillaient. Est-ce Duncan Idaho ou bien l'homme appelé Hate? Demanda Paul. Le Gola s'arrêta à 2 pas de lui et répondit:
Que préfère Monseigneur?
Un voile de prudence enveloppait sa voix.
Que le Zen Sunni parle, dit Paul d'un ton amer.
Insinuation dans l'insinuation. Mais que pouvait faire un philosophe Zen Sunni pour modifier une parcelle de cette réalité qui se déployait devant eux?
Monseigneur est dans le doute.
Paul se retourna sans répondre et ses yeux se portèrent au loin, sur les créneaux, les failles et les murailles du grand bouclier, pareil à quelques copies ironiques de la cité. La nature elle-même le narguait. Vois ce que je peux construire. Du balcon, il pouvait distinguer une balafre sombre dans le massif, une crevasse d'où s'écoulait un ruisseau de sable. Il pensa, là, oui, là, nous avons affronté les Sardaukar.
Qu'est-ce donc qui tourmente Monseigneur? Demanda le Gola.
Une vision, murmura-t-il.
Ah! À l'instant où les Tleilaxu m'ont éveillé, il m'est venu des visions. J'étais seul, inquiet. Mais je ne savais pas vraiment si j'étais seul. Pas alors. Mes visions ne me révélèrent rien. Les Tleilaxu m'ont dit que c'était une simple intrusion de la chair, un malaise dont nous souffrons tous, hommes et Gola. Rien de plus.
Paul se retourna et tenta de rencontrer le regard de ses yeux de métal, brillants, sans expression. Qu'avait-il donc vu, ses yeux?
Duncan. Duncan, murmura-t-il.
Mon nom est Hate.
J'ai vu une lune qui tombait, dans un sifflement. La terre a tremblé. La lune a disparu.
Vous vous êtes trop abreuvé de temps, dit le Gola.
Je fais appel aux Zen Sunni et c'est le Mentat qui me répond.
Très bien. Passe donc ma vision au filtre de ta logique, Mentat. Analyse-la. Réduis-la à de simples phrases pour un éloge funèbre.
Un éloge funèbre? Mais vous fuyez la mort. Vous ne visez que l'instant à venir. Vous vous refusez à vivre dans le présent. Un augure. Précieux soutien pour un empereur.
Sur le menton du Gola, il y avait un grain de beauté familier. Paul ne pouvait soudain en détacher son regard.
En essayant de vivre dans ce futur, lui donnez-vous quelque substance? Le rendez-vous réel? Demanda Hate.
Si je m'engage sur la voie de ma vision, je serai vivant dans ce futur, murmura Paul.
Qu'est-ce qui te fait donc croire que je désire vivre jusque-là?
Hate haussa les épaules.
Vous m'avez demandé une réponse substantielle?
Où est la substance dans un univers composé d'événements? Demanda Paul. Existe-t-il une réponse finale? Chaque solution n'engendre-t-elle pas des questions nouvelles?
Tout ce temps que vous avez absorbé vous procure des illusions d'immortalité. Même votre empire, Monseigneur, doit vivre son temps et mourir.
Ne brandis pas devant moi des autels noircis de fumée, grommela Paul.
J'ai entendu suffisamment de tristes histoires de dieux et de messies.
Pourquoi aurais-je besoin de facultés spéciales pour prévoir les ruines qui m'appartiennent, tout comme les autres?
La plus humble fille de mes cuisines en serait capable. » Il secoua la tête.
Cette lune tombait.
Vous n'avez pas, dès le début, accordé le moindre repos à votre esprit.
Est-ce donc ainsi que tu me détruis? En m'empêchant de me recueillir dans mes pensées?
Peut-on se recueillir dans le chaos? Nous autres, Zensuni, avons une devise.
Ne rien recueillir est la voie de la compréhension ultime. Que pouvez-vous unir sans vous unir vous-même?
Je suis possédé par une vision et tu me craches des absurdités. Que sais-tu donc de la préscience?
J'ai observé les effets de l'oracle.
J'ai vu ceux qui lui réclament des signes et des présages pour leur destin personnel. Ils ont peur de ce qu'ils cherchent.
Mais cette lune qui tombe est réelle, murmura Paul. Il eut une inspiration vibrante.
Elle se meut sans cesse. De tout temps, les hommes ont craint les choses qui se meuvent d'elles-mêmes, dit Haight.
Vous redoutez vos propres pouvoirs.
Ces choses qui tombent dans votre esprit ne viennent de nulle part. Où s'en vont-elles ensuite?
Tu me consoles à coups d'épines. Le visage du Gola fut éclairé par quelque illumination intérieure. Durant un instant, Paul retrouva en face de lui Duncan Idaho.
Je vous apporte tout le réconfort que je puis vous donner, dit-il.
Les pensées de Paul s'arrêtèrent sur cette réaction. Le Gola ressentait-il un chagrin que son esprit à lui repoussait? Découvrait-il une vision qui lui était propre?
Ma lune porte un nom, dit-il.
Il cessa de lutter, se laissa investir par la vision. Aucun son ne franchissait ses lèvres, mais son corps tout entier hurlait. Il ne pouvait parler de crainte que sa voix ne le trahisse. Dans ce futur terrifiant, l'air était lourd de l'absence de Shiny. Sa chair qui avait hurlé dans l'extase, ses yeux qui avaient brillé de désir, sa voix qui l'avait charmée parce que jamais elle ne l'avait trompé, jamais ne s'était voilée d'artifice, tout avait disparu. Tout était retourné au sable, à l'eau.
Lentement, Paul se détourna. Ses yeux se posèrent sur la réalité du moment. Sur la plaza devant le temple d'Alia, trois pèlerins au crâne rasé, aux robes jaunes souillées, venaient de faire leur apparition. Ils descendaient rapidement l'avenue des processions, baissant la tête dans le vent. L'un d'eux boitait de la jambe gauche. Ils tournèrent à un angle et disparurent. Mais la vision demeurait en Paul. Le but terrible ne lui laissait aucun choix.
La chair s'abandonne, pensa-t-il.
L'éternité se retire. Les eaux circulent brièvement dans nos corps. Brièvement, nous sommes intoxiqués par l'amour de la vie. Brièvement, nous nous fixons sur d'étranges idées avant de nous soumettre aux instruments du temps.
Que pouvons-nous en dire?
Je suis advenu. Je ne suis pas, pourtant je suis advenu.